dites joyeux Noël à votre voisin. Ok, on est dimanche 6 décembre 2020, Baltimore. Pasteur Schaller va faire une introduction. Combien aime le temps de la Noël? Moi, j'aime ça. Lorsque j'étais un enfant, j'aimais ça afin d'avoir des présents. Et lorsque j'ai grandi, j'aimais ça parce que moi, maintenant, je recevais des présents. Il n'y a rien qui n'a changé. Luc chapitre 2, verset 7. Elle a amené son premier-né, son fils premier-né. Elle l'a enveloppé dans des vêtements de bébé et l'a allongé dans la mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie ou dans l'auberge. Ce texte, probablement, vous le connaissez parce que chaque saison de Noël, on le lit. Donc, dans l'auberge, il n'y avait pas de place pour eux. Bien sûr, la question c'est, est-ce que vous avez votre voisin, votre ami, votre femme, votre voisin, celui qui est assis à côté de vous, vous vous rappelez de cette blague? Parlez avec votre voisin. Mon voisin n'est pas dans cette église. Il fait une blague, c'est son voisin de la maison. Il a compris. Parlez avec votre voisin. Mon voisin n'est pas là aujourd'hui. C'est là où vous habitez. Donc, il va vous dire la personne à côté de vous. Il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y a pas de place pour lui dans ce monde. Il est à l'extérieur. Où est-ce qu'il appartient? Où est-ce qu'il appartient? Où est-ce qu'il est reçu? Pouvez-vous faire une liste des endroits là où il n'est pas le bienvenu? Jésus, trouve ton propre endroit pour toi.
Il y a une liste courte.
Dans les palaces, dans les gouvernements, les palais, est-ce qu'il est reçu? Quelqu'un a répondu, je n'ai pas entendu. Dans la société haute, est-ce que vous savez ce que c'est que la bonne société, la haute société? Vous avez jamais été là? Vous savez pas ce que c'est? Est-ce qu'il est souhaité la bienvenue dans les clubs de golf, dans les clubs des hommes riches, les yachts, dans les fêtes, les parties? Est-ce qu'il est bienvenu à Wall Street, le marché financier? Est-ce qu'ils ont de la prière? Est-ce qu'ils adorent Jésus à Wall Street? Est-il bienvenu? Il n'y avait pas de place pour lui. Faites une liste. Vous avez vu au travail, à l'usine, dans votre famille, vous l'avez vu. Vous l'avez vu au barbecue, il y avait des fêtes, des parties. Est-ce qu'il est bienvenu dans la société de football américain, NFL? Est-ce que sur les touches, il y a un signe. Jésus-Christ, est-ce qu'il y a une place pour lui là, sur la ligne de touche là, avec les joueurs? Le Sanhédrin, est-il le bienvenu? Avec les pharisiens, les sadduciens, les hérodiens, des groupes différents. Est-il bienvenu? Est-il bienvenu? Voici une bonne là. Dans nos conversations générales, on parle de la vie. Est-ce qu'il est là? On parle de la vie en général. Pour Marianne, il est bienvenu. Je pense que beaucoup d'entre nous. À l'université, dans les salles de classe, est-il bienvenu? Pourquoi pas? Pourquoi n'est-il pas bienvenu? Tournez-vous vers la personne à côté de vous et faites une liste et pensez à ça. Considérez, oui, il y a un endroit pour lui, c'est notre message aujourd'hui. Où est cette pièce, cet endroit? C'est dans notre cœur. Dans notre cœur. Oui. Dieu m'a donné un nouveau cœur. C'est sa maison. Il demeure en nous. Il est dans notre cœur. Oui, on a un endroit pour lui. Dans ce monde, ils n'ont pas de place pour lui. Mais nous sommes dans le monde. Ça signifie que d'une certaine façon, il est ici. Parce que nous sommes ici. Mais on doit être honnête. Parfois, on a des combats. Et même parfois, nous, on n'a pas de place pour lui. Parlez avec votre voisin et dites non. On a une place pour lui. Amen. Ok, si vous voulez vous asseoir, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Sur l'écran, ils vont mettre une image, une photo. Nous sommes ici dans la maison de Dieu, à l'époque de Noël. On va retourner dans l'histoire très très loin, dans les temps, du temps de Moïse. Les prophètes, certains d'eux, n'étaient pas de Dieu, mais un prophète. Là. Mais le Saint-Esprit l'a utilisé, ce prophète-là, lorsqu'ils sont venus d'Égypte. Ils n'avaient pas d'endroit où aller, excepté que Dieu savait où il allait les amener, lui. Où est-ce qu'il voulait les amener? En Chine? L'Amérique latine? Où est-ce que Dieu voulait les amener? Canaan, la terre promise. La terre du miel et du lait et du miel. Et il y avait de l'eau au Moyen-Orient. De l'eau, l'eau, c'est de l'or dans le Moyen-Orient. La mer de Galilée jusqu'à la mer morte. Toutes ces terres-là. Ces gens sont du côté est, si vous connaissez un peu la géographie. Certains d'entre vous, il y a le désert. C'est aride, c'est sec. Les régions montagneuses. Il y a un roi qui s'appelait Barak. Il a embauché, il a loué un homme, Balaam, pour maudire Israël. Donc, on a une image là, une photo. Le roi de Moab, il n'aimait pas ces gens. Il ne les voulait pas. Il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait pas de place pour Jésus dans l'auberge. Pourquoi? C'est bien plus que l'accommodation pratique. Ils ne le veulent pas. On ne veut pas les Juifs à Moab. Si vous avez suivi l'histoire, souvent, des forces démoniaques ont essayé de se débarrasser du peuple juif. Esther, c'est un bon exemple, la reine Esther. Il y a 2 millions d'entre eux qui sortent là, de l'Égypte. Voilà une image qu'un artiste a dessinée des tribus. Au centre, il y a le tabernacle, là où Dieu rencontre les gens. Les Lévites qui campent aux alentours, les 12 tribus. Et ce roi dit, je ne peux pas me battre contre eux militairement. Parce que je sais qu'ils ont la puissance, je connais la puissance des ténèbres, on peut les maudire. Dans notre monde, on ne pense pas trop à maudire. On ne va pas autour de maudire les gens. C'est une véritable chose. Il y a des puissances démoniaques, des sorciers, une personne ténébreuse. Ils ont l'autorité de maudire. Dans d'autres parties du monde, ça fait partie de certaines cultures. Nous, on ne vit pas tellement dans ça parce qu'on vit dans un pays christianisé. On ne fait pas trop attention à cela. On a Dieu, merci Seigneur. On marche dans notre bénédiction. Non pas dans notre malédiction, mais dans notre bénédiction. On est béni avec toutes sortes de bénédictions spirituel. Il nous a été donné le nom de Dieu. C'est comme ça que l'on vit. Nous sommes comme des juifs spirituels. On ne remplace pas ces gens. Ça s'appelle la théologie du remplacement. L'Église remplace eux? Non. Ce sont des véritables personnes terrestres, le peuple choisi, le sable de la mer. Nous sommes les étoiles du ciel. Nous sommes du ciel. Eux ont des promesses terrestres. Ils ont la promesse du royaume qui va venir et du Messie qui va venir. Ça, c'est le contexte. On veut aller avec notre message conceptuellement. Ça va se passer comme ça. 1500 avant Jésus-Christ. Lorsque Balaam, on lui a demandé d'aller maudire le peuple. On a beaucoup de manifestations. Il trace un trait de l'histoire à la croix de Jésus, la tribulation, la fin des temps, le millénaire qui va venir après ça, et la nouvelle ère, la lumière, c'est à propos de la lumière. Allons voir la fin de notre Bible et lisons à propos de la lumière. Apocalypse chapitre 21. Verset 20. Chapitre 21, verset 22. C'est dans la ville. Quelle ville? Parlez, dites-moi. La nouvelle Jérusalem. Où est-ce que c'est? C'est au ciel. Est-ce que c'est là aujourd'hui? Oui. Les anges ont dit à Jean, est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu veux voir l'épouse? Et l'ange lui a montré une ville. Apocalypse. Qu'est-ce qu'il y avait dans la ville? Qu'est-ce que c'est cette ville? Verset 22. J'ai vu un nouveau temple, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et la terre est le temple. Dieu lui-même est dans cette ville. Est-ce que Dieu est la lumière? Oui. On sait dans les Écritures, 1 Jean 1:5, Dieu est la lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Il y a une bonne question. Au commencement de notre Bible, Dieu a créé les cieux et la terre. Et Dieu a dit qu'il y ait la lumière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la lumière a paru. Voici la question. Est-ce qu'il y avait la lumière avant qu'il créât la lumière? Dieu est lumière. Dieu est lumière, correct? Dieu est lumière. Oui. Mais lorsqu'il a fait la lumière, il a dit que la lumière apparaisse. Est-ce que c'était la lumière que lui? Est-ce que c'était la même lumière? Non, ça c'était une création de la lumière. La lumière physique, on connaît le soleil, la lune, les étoiles, les lampes. LED, les lampes, les ampoules. On connaît à propos de lumière. Ça, c'est une lumière physique. Est-ce qu'il y a une lumière physique derrière la lumière de Dieu? Apparemment, la ville est remplie de cette lumière-là. Verset 22. La lumière n'avait aucun besoin. La ville n'avait pas besoin de soleil et pas non plus besoin de la lune pour briller. Parce que Dieu l'illuminait. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a pas de besoin pour que la lumière soit là. On est tellement habitué à cette lumière physique, il n'y a pas besoin de ça. Mais c'est illuminé par une autre lumière. Dieu était la lumière. Dieu est la lumière de cette ville. C'est une lumière spirituelle. Une lumière qui ne diminue pas, qui ne brûle pas, il n'y a pas d'ombre, elle ne disparaît pas, elle n'est pas consumée. Lisons, continuons. Verset 24. Les nations marcheront dans la lumière et les rois de la terre Lisez ça dans versets 24 et 25. Il n'y aura pas de nuit. Il n'y aura pas de nuit là-bas. Regardez notre diagramme de l'histoire. Il y a un moment, l'univers, en tant que, comme on le connaît, sa lumière naturelle, ça c'est le monde dans lequel on vit. Il y a la journée, la lumière de la journée et la nuit. Il y a un jour qui vient où il n'y aura plus de nuit. Pourquoi? Parce que ça sera Dieu là. Là. Dieu est présent. Il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas d'ombre. Apocalypse. Apocalypse, chapitre 22, verset 5. Il n'y aura pas de nuit là. Là. Il n'y aura pas besoin de bougies et la lumière, pas besoin de lumière du soleil, car le Seigneur Dieu sera cette lumière. Et il va régner pour toujours, à toujours et toujours. Lorsque Jésus est venu dans le monde, les Écritures nous disent, il est la lumière. Mais le monde était dans les ténèbres. Le monde n'a pas compris. Ne l'a pas compris. On a la lumière qui est spirituelle. Et des ténèbres qui sont spirituelles aussi. C'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Si tu retournes, voir cette image, cette photo, ce dessin. Balaam a été appelé pour maudire les ténèbres qui maudissent les Juifs, la lumière dans ce camp, vous voyez là. Il a été embauché, engagé pour faire ça. Il n'a pas pu le faire, Dieu ne lui a pas permis. Donc, il a donné une prophétie après. Dans sa prophétie, il a donné 4 messages, Balaam. Lorsqu'il a dit au roi, je ne peux pas les maudire. Je ne peux pas les maudire, ils sont bénis. Le roi n'a pas abandonné. Il lui a dit, laisse-moi t'amener à une autre montagne. D'une autre montagne, tu vas les regarder en bas. Peut-être tu peux les maudire de là. Le roi a amené Balaam dans une autre montagne et il ne pouvait pas les maudire. Ils étaient encore bénis. C'est un contexte fondamental dans la vie. C'est le fait que nous vivons dans un monde ténébreux, mais il y a la lumière. Mais les hommes aimèrent les ténèbres plutôt que la lumière. Mais par la grâce de Dieu, ça s'est passé envers nous. C'est incroyable. Par la grâce de Dieu, on a été capable de voir et de comprendre. Il y a certaines raisons pour cela. Dans un monde ténébreux, il y a des choses fondamentales qui manquent. Trois choses fondamentales qui manquent dans un monde ténébreux. Qui manquent. J'espère que je peux vous montrer cela. Tournez dans le livre des Nombres. On va retourner 1500 années auparavant. La nouvelle Jérusalem va venir. J'évangélisais à votre grâce. L'été dernier, j'ai rencontré cet homme à sa porte, une nuit, en frappant aux portes. Il était un vieux monsieur, très dur, un vétéran, peut-être de la Deuxième Guerre mondiale, je pense, un vieil homme, très dur. Même à sa porte, il est écrit, Il avait tout ce qu'il avait fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'étais avec un autre frère. Tu veux frapper à cette porte? Ça sera bien amusant. Allons voir ce qu'il a. Le gars est sorti. pas de t-shirt, c'était un vieux monsieur très dur de la Deuxième Guerre mondiale. Sur sa porte, il y avait des avertissements, si vous frappez là. Il avait des tatouages sur, partout sur lui. Il était formidable, il était si doux. Il a dit qu'il a perdu sa femme. Elle est décédée il y a quelques années. Il lui a dit, je vais te rencontrer au portail du sud. Ça, c'est resté dans mon cœur. Je vais te rencontrer à la porte du sud. Je suis allé à la maison, j'ai dit ça à ma femme. Si je pars tout d'abord, moi, si je disparais, je meurs, je te rencontre à la porte sud. Il blague. La ville, c'est dans notre pensée, dans notre cœur. On va dans une ville, on va aller dans une ville, on y va. C'est beau. Avant qu'on aille là-bas, il n'y aura pas d'ombre. Il n'y aura pas de moitié de mensonges. Il y aura une ombre, c'est un endroit qui est gris, on ne sait pas. C'est un endroit qui est ni blanc ni noir, c'est gris. Dans nos voies, on aura la lumière claire de Dieu et la vérité. C'est beau. Jusqu'à ce moment-là, on a une étoile. Nombre, chapitre 24. C'est une des prophéties de Balaam qui ne pouvait pas faire autrement que de dire ces paroles-là. Au verset 17, Nombre 24. Je le verrai, lui, mais pas maintenant. Je le verrai, mais pas maintenant. Je vais le voir, le contempler, mais pas de trop proche. Il viendra comme une étoile de Jacob. Ça, c'est notre histoire de Noël, l'étoile. C'est quoi une étoile? C'est dans la nuit, comme un petit point lumineux. Tu ne peux pas lire à propos des étoiles. Tu ne peux pas naviguer avec les étoiles. Il n'y a pas suffisamment de lumière pour vivre avec une étoile. Ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas suffisamment de lumière. Mais c'est suffisant pour ce que Dieu veut dire ici. L'étoile de Jacob. Et le sceptre, au verset 17, chapitre 24, le sceptre va s'élever d'Israël, sortira d'Israël. Le sceptre, c'est la royauté, l'autorité du roi avec son sceptre qui va s'élever, qui va sortir d'Israël. Le roi va venir d'Israël. Une étoile. C'est pas beaucoup apparemment, c'est une étoile, mais c'est l'étoile de Jacob. Il va venir et détruire ses ennemis. Retournons à l'image, là, le dessin au tableau. Apparemment, ça n'a... il ne semble pas qu'on a un roi ici. Il ne semble pas qu'ils ont cette autorité. Mais, à partir de ces gens, il va sortir un Messie et un sceptre. On lit dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est venu, il était la lumière pour les gens. Mais tu peux vivre dans tes propres ténèbres aussi. Si tu vis dans tes ténèbres, il y a trois choses que tu n'as pas. Et je veux vous les lire. Il y en a une ici. Tournez dans Matthieu, chapitre 2, avant que je lise le reste. Matthieu, chapitre 2, verset 1. Lorsque Jésus est né à Bethléem de Judéa, les jours d'Hérode le roi, voici des hommes sages sont venus de l'Est. Il a demandé, où est le roi des Juifs qui est né? On a vu son étoile. Ils demandèrent au roi Hérode. On est venu pour l'adorer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a deux choses ici. Le roi, le sceptre et une étoile. L'étoile de Jacob. Attends, écoute. Il y a 1500 années plus tard, retourner le dessin là, ici. Cet homme là qui dit de ces gens, l'étoile de Jacob, la lumière que les hommes sages, les rois mages ont suivi. En anglais, on dit les rois mages. Elle était partie. On a vu son étoile. Ils ont été dirigés jusqu'à Jérusalem. Et ensuite, ils doivent poser la question à Jérusalem. Où est le roi des Juifs? L'étoile et le sceptre. On sait que Hérode était troublé par cela. Tout Jérusalem était troublé lorsqu'ils ont entendu cela. Les hommes qui sont venus, ces autorités, les rois mages. Mais ils connaissaient plus que ce qui se passait vraiment dans le plan de Dieu que ceux qui étaient là, le peuple, les natifs. Ils connaissaient plus eux. Ça se passe des fois. J'étais à Paris. Je voulais voir la Tour Eiffel. Et combien de Parisiens s'en moquaient complètement de la Tour Eiffel. Je veux voir la Tour Eiffel. Oh, je sais pas, celle-là, bah, j'ai jamais vu ça, moi. Je l'ai vu, mais ça m'intéresse pas. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Ceux qui sont de l'extérieur, les rois mages, la Tour Eiffel n'est pas le point, bien sûr. Pour illustrer le point, c'est que parfois, les gens sont proches de quelque chose, ils peuvent le manquer. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la Noël? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'étoile de Jacob, dans ce groupe de gens, il y a le Messie. Dans notre Nouveau Testament, on nous a dit qu'il allait venir et une épée qui va sortir de sa bouche va détruire ses ennemis, les ténèbres, les mensonges. Et ensuite, en passant par là, nous, en tant qu'Américains, on a atteint un nouveau endroit dans notre société, dans notre culture. On est choqué, on est émerveillé que les gens peuvent tellement d'idées comme ça et propager, être arrogants à propos des choses qu'ils disent aujourd'hui, ce qu'ils croient, l'hypocrisie, les dirigeants, le manque de ces trois choses. Les voici. Les 21 grandes civilisations qui ont existé sur notre planète. C'est un professeur théologique qui a étudié ces cultures différentes. 21 sociétés, civilisations. Notre société, la nôtre, notre monde de l'Ouest, et le premier qui n'a pas ou qui n'enseigne pas ses citoyens aucune réponse pourquoi est-ce qu'ils existent. Pourquoi est-ce qu'on est là? C'est une bonne question de demander dans la rue. Pourquoi êtes-vous ici? Non pas quoi. On est bon à quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Et les choses matérielles. Un arbre, il y a des documents, des livres écrits comme ça. Je peux te dire tout à propos d'un arbre. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Demande la question, pourquoi est-ce qu'il y a un arbre? Pourquoi? Les êtres humains, on connaît tout à propos des êtres humains. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi sommes-nous ici? L'univers, il y a beaucoup de quoi. On répond au quoi. Mais pourquoi? Notre culture est vide. Lorsqu'on arrive à la question pourquoi, tu marches, on fait nos choses comme des robots là. On marche comme chaque jour dans les ténèbres, dans nos habitudes, dans les ténèbres. Et lorsque les hommes sages, les rois mages, ils ont suivi les étoiles. Je veux que vous compreniez les étoiles, les ont conduits. À un endroit, on a vu l'étoile. On cherche le roi des Juifs qui sont arrivés à Jérusalem. Où est-ce qu'ils ont lu cela? Le roi des Juifs. la semence de David, qui a un trône, la prophétie de Balaam, le sceptre et l'étoile. Hérode est troublé. Regardez au verset 3. Lorsque le roi Hérode a entendu dire ces choses-là, il fut troublé. Pensons à ces troubles à lui, là, ces problèmes. Est-ce qu'il ne pouvait pas dormir la nuit? Est-ce qu'il est jaloux? Jaloux? Il avait un égoïsme très très fort. Il était un homme terrible, très très dur. Il construisait, c'était un ingénieur. Dans beaucoup de façons, il construisait, il faisait des choses. Mais il était un être humain. Néanmoins, il était un être humain. Il était troublé. Est-ce qu'il y a la compétition? Est-ce qu'il y a un autre roi? J'étais appointé, j'ai été désigné par Rome. Il n'y a pas d'autre roi des Juifs. Nous sommes ceux qui sont en commandement ici, responsables. Ça a dû faire un grand impact sur lui. Il était troublé. Lorsque la lumière vient dans les ténèbres, il y a des problèmes, des troubles. Lorsque tu amènes Jésus-Christ dans une conversation, la façon de vivre, la conviction de la vérité, il y aura des troubles. Ça, c'est au verset 3, il est dit, dans tout, Jérusalem était troublée avec lui aussi. Les rois mages lui dirent, Michée 5, verset 2, Michée. Ils partirent, ils allèrent vers Bethléem. L'étoile apparut encore. Au verset 9, lorsqu'ils entendirent le roi, ils s'en allèrent et ils suivirent l'étoile. Ils virent l'étoile qui allait vers l'est. Quel genre de lumière c'était ça? Et la lumière est venue se tenir au-dessus de là où était l'enfant. Est-ce que c'est une lumière qui va remplir la ville au ciel? Est-ce que c'est la gloire Shekinah? La gloire qui a amené les Juifs, qui les a fait sortir de l'Égypte, est-ce que c'est la lumière qui les a dirigés vers Bethléem, l'étoile de Jacob qui les a dirigés vers le sceptre? Qu'ont-ils vu lorsqu'ils virent le bébé dans la mangeoire? Ils virent la lumière dans un corps humain. Ça a dû être une atmosphère incroyable dans cette petite, dans cette grotte. On a été à Bethléem, on a vu ce genre de grotte là. Une formation géologique, il y a des grottes. On a été là-bas, on a vu. C'est très intéressant l'endroit. Le guide, il te dit dans le tour, tu as la Bible, tu peux suivre, tu peux penser à ça. Ça doit être formidable d'avoir les bergers. Ils sont venus avec un message que les anges avaient, leur avaient chanté et leur ont dit, allez voir le bébé. Jésus avec sa propre communauté et le monde dort dans les ténèbres et ils sont troublés par les nouvelles. Mais dans cette atmosphère, il y a l'onction, il y a une présence, il y a la promesse de la lumière qui va illuminer ton cœur. Et c'est ce qui s'est passé envers nous lorsqu'on a été nés de nouveau. Une lumière spirituelle est venue à notre esprit lorsque nous sommes nés de nouveau, comme à Pentecôte. Et il nous a été donné quelque chose qui est du ciel. Jésus dit, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Je suis du ciel. Mon Père m'a envoyé. Vous ne vivrez pas dans les ténèbres, mais afin que vous ayez la lumière de la vie. Moi j'ai été envoyé. On a envoyé pour une manifestation complète, mais pour être honnête, ce que l'on a aujourd'hui, c'est très satisfaisant. Oui, regardez sur l'écran. On a la lumière dans notre cœur. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Tournez-la avec moi, s'il vous plaît. 19. On a aussi une parole plus sûre, une parole de prophétie. c'est la comparaison avec la voix qu'ils ont entendue sur la montagne. Le Père a parlé des nuages. Voici mon Fils, écoutez-le. Pierre a dit, on a un mot bien plus sûr de la prophétie. Ça, c'est incroyable que ça a été écrit de cette façon. Qu'est-ce que tu veux dire, Pierre? On a Isaïe, que veux-tu dire? On a ce que Balaam a dit. On a ce que David a dit, la promesse. Michée, on a la Bible. On a beaucoup de paroles, beaucoup de lumière comme des étoiles au travers de l'histoire par rapport à ce Christ qui allait venir. On n'a pas suivi un mensonge. On était au muséum de la Bible à Washington DC hier. 21 étudiants. On a 5 étages dans ce bâtiment pendant 4 heures. On regardait des exhibitions différentes. On est très touché. On exerce comment la Bible est unique, l'histoire et le message. Une partie de ce que je vous dis aujourd'hui, c'est, ça vient de ce moment hier. Comment unique est la Bible? Comment grande est la lumière qui est venue dans ce monde? C'est une parole sûre de la prophétie. Des paroles. Qu'est-ce que ça signifie? Regarde au verset 19. Vous allez bien faire et vous faites bien attention. Ça va changer votre vie et ma vie. Une parole sûre. Si on fait attention, même Balaam, il y a longtemps, beaucoup d'années, il a dit, le premier discours qu'il a fait, je veux mourir de la mort du juif, je veux être un homme juste. Mais il n'était pas. La prophétie qu'il a donnée, c'était de l'eau qui coule au travers un conduit d'eau, un tuyau, sans changer. C'est l'eau, c'est le message. Comme Adolf Hitler, il pouvait lire la Bible c'est véritable, mais lui, il n'était pas véritable. Un homme méchant peut lire la Bible, dire la vérité, ça ne veut pas dire que la vie de cet homme est changée. Correct? Vous pouvez dire la vérité, ça peut être vrai, mais est-ce que ça change? Est-ce que c'est un nouveau cœur? Regardez au verset 19. On ferait bien de faire attention à la prophétie qui est sûre, comme la lumière qui brille dans un endroit ténébreux. Où? Oui, c'est dans le cœur. Dans le cœur. Est-ce que ça brille? Est-ce que la lumière brille à l'usine, là où tu travailles? Oui, ça brille. Dans le cœur, ça brille. Dans le cœur du croyant. Dans la bonne société, on ne va pas l'inviter plus. Parce qu'il est comme une lumière qui brille dans les ténèbres. D'un autre côté, j'ai besoin de le rencontrer. Comme Nicodème a dit, je dois aller voir Jésus. Je vais aller le voir quand personne ne me regarde. La nuit, à l'extérieur de la nuit, je vais aller voir Jésus et lui parler. Ça s'est passé avec nous aussi. La lumière brille où? À Hollywood? Non. Dans le cœur. Dans le cœur d'un acteur d'Hollywood. Est-ce qu'il brille? Non. Pas à l'université, mais dans le cœur d'un professeur de l'université, dans son cœur, dans le cœur d'un scientifique. La science renie beaucoup de scientifiques, renie, mais pas tout le monde. Quel genre de lumière c'est? C'est la lumière qui remplit le ciel. Cette lumière qui est venue avec Christ à Bethléem, et ils ont vu ça. Ils ont vu un roi, l'étoile et le sceptre. Il est là, le voici. C'est quoi ces trois choses-là que tu vois ici, là? C'est quoi que tu vois là? Tout d'abord, je vous les lis. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une humanité? Dieu nous aime. Dieu nous aime. Pourquoi est-ce qu'on existe? Dieu prend soin de vous. Il se soucie à la gloire de Dieu. On vit ici-bas pour la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que je marche, je vis, je bouge et mon être humain pour glorifier Dieu? Qui peut me montrer Dieu? Il peut, lui. Lui, il peut. Il n'y a pas d'autre dessein que de plaire le Père, de connaître le Père. Marcher avec le Père, connaître le Père, c'est la lumière du monde. Ce n'est pas la lumière morale, c'est la lumière spirituelle. Vrai? Correct? N'est-ce pas? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit dans cette mangeoire? L'humilité. Deuxième point. Il n'y a pas de place pour lui dans l'auberge, c'est OK. Je suis là de toute façon. Tu n'as pas besoin de m'honorer. J'ai pas besoin de tapis rouge. J'ai pas besoin de fleurs. J'ai pas besoin d'être reconnu. J'ai pas besoin d'argent ou d'or. Je n'ai besoin de rien de ce que ce monde veut m'offrir. Je n'ai pas besoin. Je suis un serviteur. Je suis humble. Je suis Dieu. Je peux vous montrer comment je suis humble. Je suis qui je suis. Je veux rencontrer Dieu. C'est lui, c'est Dieu ici, là. Qu'est-ce que ça veut dire? On vit dans un monde ténébreux, mais l'étoile s'élève dans notre cœur. Verset 19, on va lire encore. Une lumière qui brille dans les endroits ténébreux. Avec Balaam, oui. Ça brillait dans un endroit ténébreux. Avec Jésus à Bethléem, oui. Est-ce que ça brille dans un endroit ténébreux? Dans le football américain, ou le PGA, c'est le golf, la société haute, l'université, le laboratoire des scientifiques. Oui, ça brille dans un endroit ténébreux. Jusqu'au jour où le matin va venir à l'aube. Jusqu'à l'aube. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à le jour va se lever. C'est à la fin de notre Bible, n'est-ce pas? À l'aube. Le jour éternel, il n'y aura plus aucune nuit, plus jamais aucune nuit. Lorsqu'on va au ciel, il n'y a plus de nuit. C'est le matin, le jour se lève. Le jour commence, il se lève dans ton cœur, n'est-ce pas? Le jour, l'étoile du jour se lève dans votre cœur, dans vos cœurs. C'est quoi l'étoile du jour? Je comprends ça comme la planète Vénus. Si vous regardez le matin, vous pouvez voir une étoile là-bas. Ça dépend comment le soleil est brillant ou pas. Tu vois Vénus qui reflète le soleil. C'est une planète, en fait. Il appelle ça l'étoile du jour. L'étoile du jour. Pendant la partie du jour, tu peux peut-être la voir aussi. L'étoile du jour, elle se lève dans ton cœur, dans vos cœurs. C'est Christ. Comment est-ce que ça marche? Vous faites ça aujourd'hui, vous et moi. On est rassemblés dans son nom. On a la lumière qui vient du ciel. Quel genre de lumière? C'est l'onction. C'est l'esprit. Lorsque tu regardes Jésus, tu vois ici Dieu a un but, un dessein. Je n'ai pas ça du monde. Le monde ténébreux va te dire, ne t'inquiète pas. Et en bon temps, voici un autre rêve, un autre vendredi soir, prends une autre vacance, tu vas être OK, tout ça. L'hypocrisie dans le monde est incroyable. L'hypocrisie, prends une autre boisson, fais ça. Et lorsque tu es un sans-abri sous le pont, tu es alcoolique, à qui tu vas? Vous êtes fou, tu es un alcoolique, tu es un fou. Qui t'a rendu être un alcoolique? C'est toi-même, c'est toi-même. Oh, vous m'avez menti, vous m'avez donné quelque chose. Mais il n'y avait pas de profondeur, pas de réalité, pas de lumière. C'était un jeu, juste un jeu. Ils jouent la musique, le Titanic, le bateau dans le film. Il coule. C'est une réalité bien plus grande. La musique sur le bateau qu'il est en train de couler. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce monde? C'est les ténèbres. C'est l'hypocrisie, c'est le vide, c'est l'orgueil, c'est l'arrogance, c'est l'argent, la puissance. Allons à Bethléem. Les hommes, les gens sages vont là-bas et on voit la lumière. et ça vient dans notre cœur. Ça s'élève dans notre cœur. Je dois nourrir. Je dois faire attention. Je dois être dirigé par ça. Le monde, je pense à un joueur de basketball. Sur le court de basketball, il y a une grande foule, la télévision. Tout le monde est là, il y a des gens, des millions qui le regardent. Il ne pense pas à eux. Il a le ballon, il joue, il va tirer le ballon. Il joue, il est dans le jeu. Tu dois être dans le jeu qui s'appelle la lumière. Tu dois être là. Tu dois ignorer beaucoup de mauvaises choses là. Tu dois être au-delà de ta propre âme. Tu dois être rempli de l'esprit. Tu dois te débarrasser de beaucoup de choses. Que l'étoile du jour s'élève dans ton cœur. Tu copies la même chose qui est dans cette mangeoire. Tu as un dessein, un but, l'humilité. La troisième chose, il est très riche. Le dessein, l'humilité et la richesse. Il a une grande autorité. Il est très riche. Il peut tirer les choses du ciel. Il peut amener la guérison. Il peut prendre les choses et servir. Il sert les gens. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il prend du ciel et il donne. Les soldats romains, une autre image là. Les soldats romains, ils jettent les dés. Tout ce qu'ils peuvent penser, eux, c'est à son manteau. Oh, je vais avoir sa cape. Je vais amener ça à ma femme. J'ai la cape. J'ai le de Jésus là. Dans sa tête, il y a la Jésus, il y a la défaite. Sa tête qui coule le sang et ses pieds, il est très riche. Le sang coule, il est très humble. Il a un dessein divin. Moi, je jette les dés pour une cape, un morceau de vêtement. C'est tout ce que j'ai dans ma pensée uniquement. Il n'y a rien d'autre. On joue, c'est un trésor pour moi. On joue la cape de Jésus, son manteau. Ça, c'est une image. Comment le monde peut être tellement avoir tort que vous et moi, on peut, par la grâce de Dieu, sans aucune arrogance, sans aucune supériorité, on peut avoir raison. Juste. On est juste, on a raison, on est sage. On aime, on est humble. On vit pour notre monde, pour notre royaume. Jésus a dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour moi. J'aurais pu appeler 10 000 anges. Mais il y a une ville où le constructeur et l'architecte est Dieu. Et elle va venir ici bientôt. Dans cette lumière, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de mensonge, pas d'hypocrisie. Dans cette réalité, c'est la réalité. On est fait pour ça et on a faim pour ça. C'est pour ça qu'on célèbre cette saison de Noël. Trois choses. On a dit ça ce matin au culte d'avant. Ils ont enveloppé le bébé dans ses vêtements. Ils ont parti pour aller en Égypte. Cette mangeoire est là. Elle est restée là. Ils ont mis de la paille pour l'âne. Ils ont utilisé cette mangeoire. Est-ce qu'ils ont continué de l'utiliser? Bien sûr, ils ont continué d'utiliser dans cet endroit-là, la mangeoire. Est-ce que c'était un endroit saint, les gens qui sont retournés, ou bien c'est fini? C'est parti, il est parti, c'est fini. As-tu jamais été retourné pour visiter, pour essayer de trouver quelque chose? As-tu jamais essayé de retrouver quelque chose que tu avais perdu, de trouver Jésus? Jésus te dirige, toi, te guide par cette étoile dans ta vie, cette étoile, cette lumière spirituelle qui demeure en toi maintenant, parce que tu es né de nouveau. Continue de le suivre. Ce n'est pas brisé, ce n'est pas glacé, congelé, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est la vie. Je ne veux pas retourner là où Dieu était, je veux être là où Dieu est. Je veux être là où Dieu veut que je sois dans la lumière et de marcher avec lui. Et avec lui et voir ce qu'il fait.